CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce mag du pays Midi-Quercy où aujourd'hui on vous emmènera en Quercy Vert, Aveyron. Pour la chronique, les offices de tourisme prennent le micro, on a plein de propositions à vous faire, des expositions, des sorties, des balades et plein de concerts. Vous saurez tout après l'autre chronique, les circuits courts bonjour, où tous les mois, Marie Brandy, la chargée du PAT, du projet alimentaire territorial, nous emmène en balade. Le PAT, pour rappel, c'est autour de plusieurs axes, conforter et soutenir les circuits courts sur le territoire, valoriser la gastronomie et les patrimoines alimentaires du pays Midi-Quercy, autour du lien entre alimentation et santé, autour de l'autoproduction des habitants et autour de la pérennité des dynamiques agricoles. Allez, on rejoint Marie, la chronique, les circuits courts, bonjour.
Les circuits courts, bonjour. Aujourd'hui, je suis à la fête paysanne organisée par la Confédération paysanne à Lavourette, dont une des thématiques abordées aujourd'hui est l'abattage. Ils ont invité Jacques Alverne, qui est donc spécialiste des abattoirs, et je viens de le rencontrer. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qui vous êtes ?
Donc, je suis Jacques Alverne et je suis un ancien éleveur bio aveyronnais et ancien directeur d'abattoir sur plusieurs abattoirs de l'Aveyron, de Lozère, des Hautes-Alpes. Depuis quelques années, depuis 2018, je ne suis plus en responsabilité d'abattoir, mais je suis consultant, auto-entrepreneur, et j'accompagne des projets d'abattage alternatif. Donc je suis officiellement consultant en mode alternatif d'abattage, c'est un bien grand mot. Mais en fait, mon job consiste à accompagner des projets liés aux éleveurs, liés aux paysans, pour reprendre en main l'abattage avec différentes thématiques là-dedans, des thématiques techniques autour des caissons d'abattage, des abattoirs mobiles, semi-mobiles, mais aussi, surtout, des thématiques organisationnelles, c'est-à-dire comment on s'y prend pour reprendre en main la gouvernance des abattoirs, l'autonomie des abattoirs et la place des paysans à l'intérieur de ces outils-là.
Alors déjà, pour situer un petit peu le contexte, c'est quoi la problématique de l'abattage globalement? Alors je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas spécialiste pour le Tarn-et-Garonne, mais globalement...
Globalement, la problématique des abattoirs actuellement, c'est qu'on a en France très peu d'abattoirs et de moins en moins d'abattoirs. Pour être précis, on vient de passer sous la barre des 230 abattoirs sur le territoire national. C'est-à-dire grosso modo deux abattoirs par département, mais il y a aussi un certain nombre de départements où il n'y a même plus d'abattoirs, y compris des territoires ruraux, des départements relativement ruraux.
C'est le cas du Tarn-et-Garonne.
Cas du Tarn-et-Garonne, oui. Alors qu'on en avait, je ne sais plus les chiffres en tête, mais plus de 1000 en 2000-2010. Donc ça ne fait que chuter. Actuellement, depuis 2 ans à peu près, on perd un abattoir par mois. C'est pas rien, ça va très vite.
Pourquoi ?
J'y viens. Et à titre de comparaison, en Allemagne, il y a plus de 3000 abattoirs. En Italie, il y en a 1700. Donc on est sur des structures nationales de l'abattage qui sont complètement différentes. Et du coup, on a des abattoirs, vu que beaucoup ferment, pour les éleveurs, les abattoirs se retrouvent de plus en plus loin. Alors pourquoi ces fermetures ? Pour différentes raisons. Une des raisons, c'est une stratégie nationale ancienne qui a visé à concentrer les abattoirs, mais ça, c'est quelque chose qui a été engagé en France dans les années 70-80. Donc ça fait 40 ans qu'on dit il faut concentrer les abattoirs, il y a trop de structures d'abattage, etc. Et puis on a une situation plus conjoncturelle qui est liée à ces dernières années, au renchérissement des coûts de l'énergie, aux difficultés qu'il y a aussi à trouver du personnel. personnel pour travailler en abattoir. Et en particulier, les abattoirs qui ferment en ce moment sont des petits outils d'abattage de proximité, souvent gérés en régie, qui appartiennent à des collectivités. Voilà. Et ça, c'est dramatique parce que ce sont ces outils-là dont les éleveurs ont besoin pour pouvoir pratiquer des circuits courts en ayant des outils d'abattage et de découpe éventuellement à proximité. Quand il s'agit aujourd'hui de faire... j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui parlait d'abattoir à une heure et qui trouvait que c'était long. Moi, je connais plein de situations où les éleveurs, ils ont des abattoirs à 2h, 2h30 de route. C'est pas qu'il faut pas se plaindre, il faut se plaindre, mais il y a pire. Donc, des situations dramatiques où les gens qui sont installés en circuit court depuis très longtemps, je dirais, tiennent le coup en général. Ils font l'effort d'aller un peu plus loin, etc., même si ça leur coûte plus cher, sans pour autant répercuter ça sur le prix de la viande. Mais les gens qui sont installés en circuit court depuis peu, souvent sont plus fragiles et eux lâchent la partie et arrêtent leur approvisionnement en circuit court et retournent en filière longue. D'autant plus que ces derniers temps, les cours de la viande en filière longue sont relativement élevés. Ça va peut-être pas durer, on ne sait pas, mais voilà, ça donne de la fragilité à tous ces circuits courts.
Et alors, en solution alternative, qu'est-ce qu'il existe peut-être en termes de bien-être animal aussi?
Alors, en solution alternative, déjà, il y a une chose, c'est ne pas laisser fermer des abattoirs, se battre pour que les abattoirs ne ferment pas, ou se battre pour reprendre les abattoirs, donc la gestion des outils d'abattage, et les faire reprendre par des paysans qui prennent en main la gouvernance, voire l'opérationnel de l'abattage. C'est une formule qui existe, plus dans le sud-est de la France, on a une petite dizaine d'abattoirs qu'on appelle des abattoirs paysans. Ce sont des abattoirs non seulement qui sont gouvernés par des paysans, c'est-à-dire qui sont montés en coopérative, en général en SIC, modèle vertueux de gestion et d'organisation, mais où aussi ce sont des outils où il y a plus de salariés, où ce sont les paysans qui viennent faire l'abattage un jour par semaine, certains des paysans qui se mobilisent pour aller faire le travail d'abattage. Et du coup, on a une reprise en main complète et une orientation, on en fait des outils vraiment dédiés au circuit court et aux besoins des éleveurs, des paysans du coin, et pas aux besoins de négociants en viande qui sont... Moi, je considère personnellement que les négociants en viande sont des prédateurs pour les abattoirs. Ce n'est pas des gens qui sont là pour que les abattoirs durent, ils sont là pour les utiliser, les pomper, les exploiter. Mais la viabilité des outils d'abattage, ce n'est pas leur souci. Voilà, donc ça, c'est une solution. Après, il y a d'autres solutions qui consiste à, là où il n'y en a pas, monter des solutions d'abattage, construire des solutions d'abattage, en essayant de aujourd'hui, on est en capacité de monter des abattoirs avec des investissements qui sont relativement réduits. C'est-à-dire que tout le gros du problème pour créer des outils d'abattage, c'est de changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'un abattoir, c'est quelque chose qui est considéré, justement à cause de cet historique lourd, comme quelque chose qui doit être gros, qui doit faire de la cadence, qui doit faire du rendement, qui doit faire voilà, de la productivité, etc. Aujourd'hui, il faut arriver à concevoir des outils d'abattage dans un objectif de réduire les ambitions et en gros, je dirais, des outils d'abattage qui soient un peu en décroissance. Quoi. Et c'est pas dans l'état d'esprit des gens qui gèrent les abattoirs actuellement. Quoi.
À taille plus humaine, en fait.
Ouais, à taille humaine aussi, où on se soucie pas d'augmenter les cadences et d'augmenter le tonnage, l'activité des utilisateurs.
Et l'abattoir mobile là-dedans?
Alors l'abattoir mobile là-dedans, c'est une solution technique. L'abattoir mobile est une des solutions d'abattage à la ferme. C'est une solution relativement complexe. On en veut pour preuve le fait que la notion d'abattoir mobile, même si elle existait dans la réglementation depuis plus de 20 ans, a été relancée par la loi Egalim et le fait qu'il y ait un article de loi qui porte sur l'expérimentation des abattoirs mobiles. Cette loi Egalim, c'est la première loi Egalim, donc de 2018, donc ça fait déjà 7 ans. Et en fait, il y a eu une seule expérience d'abattoir mobile, qui a été l'abattoir du bœuf éthique, qui a fait faillite entre-temps. Donc personne en fait ne se lance là-dedans parce que c'est très compliqué. Un abattoir, c'est quelque chose qui ne fait pas que abattre des animaux. C'est quelque chose qui gère ses déchets, qui gère son eau, qui gère ses polluants, qui gère tous les intrants, qui va gérer aussi, en plus de la carcasse, le traitement des abats, le blanchissement des panses, par exemple, si on veut sortir des panses de l'abattoir. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et quand on fait un abattoir mobile, on doit intégrer tous ces besoins-là et faire en sorte que tout ça soit mobile. Et là, ça devient très compliqué. On pense comme ça que c'est très simple. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors après, il y a d'autres solutions. Pour ce qui relève de l'abattage à la ferme, il y a une première solution qui est ce qu'on appelle le caisson d'abattage, qui, elle, pour le coup, n'existait pas dans la réglementation et qui a été, on a fait avec la Confédération paysanne au niveau national un travail de longue haleine, mais qui a abouti en parallèle avec l'administration centrale, bien sûr, mais on est allé aussi intervenir auprès de Bruxelles pour faire évoluer la réglementation européenne. Et aujourd'hui, on peut utiliser des caissons d'abattage en France, c'est-à-dire, c'est juste un petit module. En gros, pour faire simple, on va dire c'est une bétaillère qui est aménagée spécialement, mais qui permet d'aller sur une ferme, de mettre à mort les animaux à la ferme, uniquement les mettre à mort, c'est-à-dire les étourdir et les saigner. Et ça devient ce qu'on appelle une carcasse peau, une carcasse en peau. Et cette carcasse, on la ramène vers un abattoir classique pour faire la suite du travail. C'est-à-dire qu'on élimine pour l'animal tout ce qui est transport vivant, chargement dans un véhicule, déchargement à l'abattoir, tout le stress qui est lié à ça.
Quoi. Ah, c'est super.
Donc ça.
Ça,
c'est ouais, c'est super. C'est aussi pas simple à mettre en œuvre. Il y en a un qui fonctionne depuis un an et demi maintenant dans le département de l'Hérault avec l'abattoir de Pézenas. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui soient. Enfin, il y a quelques groupes à travers la France qui réfléchissent à cette idée-là. Il n'y en a pas d'autres de lancer. Et c'est une question d'abattage en bovin uniquement, pour abattre uniquement des bovins. On travaille avec le groupe de l'Hérault aussi actuellement sur une question d'abattage pour des petits ruminants, donc ovins, caprins. Et après, pour des porcs aussi.
Et parce que ça ne peut pas être le même, alors.
Et ça ne peut pas être le même. C'est trop, c'est pas les mêmes techniques de mise à mort. Donc, tout entrer, les différentes techniques à l'intérieur d'une même remorque, ce n'est pas possible. Donc, ça complexifie encore le système. Et puis, la dernière solution pour la mise à mort à la ferme, c'est ce qu'on appelle les abattoirs d'élevage. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un certain nombre d'éleveurs qui, face à cette difficulté qu'il y a à avoir accès à des abattoirs, décident de faire un abattoir chez eux, sur leur ferme, uniquement pour l'abattage de leurs animaux. Et ça, c'est quelque chose que bien souvent les gens pensent que c'est pas possible. En fait, c'est possible.
Peut-être, c'est compliqué.
Pas nécessairement. Okay. Aujourd'hui, on a des éleveurs en petits ruminants qui ont fait des outils d'abattage qui ont coûté dans les 25 000 euros.
C'est pas cher.
Alors, bon, c'est toujours une somme, mais pour des éleveurs qui vont avoir une facture d'abattage tous les ans quand ils vont à l'abattoir de 3 000 euros, investir 25 000 euros, c'est amorti en 9 ans, quoi. Voilà, 8-9 ans, quoi. Donc ça vaut le coup. Et puis, ça permet d'avoir une complète maîtrise de cette phase-là, quoi. En plus, l'atelier de découpe, en général, sert aussi de... l'abattoir sert d'atelier de découpe. Donc les gens font maîtrise chez eux, sans se déplacer, toutes les étapes intermédiaires entre l'élevage de l'animal et la commercialisation de la viande.
Quoi. Okay. Voilà. Jusqu'au client qui donne le
temps. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement accessible. Alors, ça coûte Ça dépend les choix qu'on fait au niveau technique, mais on travaille aussi sur des solutions très simplifiées pour avoir accès à ces outils-là. Et c'est quelque chose qui prend bien, parce que en plus, malheureusement, je dirais, ça relève d'une initiative individuelle. Et c'est plus facile de prendre une décision individuelle qu'une décision collective.
Je confirme, c'est compliqué le collectif.
Le collectif, c'est compliqué. C'est très attrayant, c'est alléchant, c'est mobilisateur, etc. Mais pour arriver au bout du compte, c'est souvent, ça demande beaucoup d'abnégation, de temps. Voilà. L'initiative individuelle est beaucoup plus simple. Quoi. Voilà. Et on a quelques projets. L'année dernière, on a eu 3 abattoirs d'élevage qui se sont créés en France. On a en a deux ou trois aussi qui devraient sortir de terre d'ici la fin de l'année à peu près, et d'autres encore pour l'année prochaine, quoi, en perspective. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, quoi, et une alternative.
Et du coup, là, aujourd'hui, vous venez présenter toutes ces solutions, c'est ça, aux éleveurs, oui, aux élus.
Je ne sais pas trop, je vais les présenter à qui, okay, à qui on me demandera de les présenter. Okay. Voilà, mais je suis là pour cet après-midi pour partager ma connaissance de ce sujet-là. Voilà.
Et après, on donnera la suite dans une prochaine émission pour savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Exactement. C'est aux gens, aux paysans d'ici, de prendre la balle au bon et de construire leur projet. Ce n'est pas moi qui vais le construire à leur place.
Vous les accompagnez.
Exactement.
Merci beaucoup, Jacques. C'était très intéressant.
Un grand merci à Marie Brandy, la chargée du projet alimentaire territorial du Pays Midi-Quercy, pour ses chroniques que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr dans la rubrique Les circuits courts. Bonjour.
La vie du pays Midi-Quercy.
En deuxième partie de ce MAG du pays Midi-Quercy, c'est la chronique Les offices de tourisme prennent le micro. On fait le détour par le Quercy vers Aveyron. Et c'est Hugo Lopez pour le réseau des offices qui nous ouvre la porte. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Vous avez plein de propositions à nous faire, de l'architecture, du patrimoine, des balades gourmandes, des concerts, de la batugada à l'Opéra Bouffe et Opérette avec le Festival des Châteaux de Bruniquel.
Oui, alors d'abord, pour commencer, il y a le Festival des Châteaux de Bruniquel, donc c'est le 30e anniversaire du festival. Donc c'est un spectacle d'opéra bouffe inspiré des œuvres de Jacques Offenbach. Ça se passe sur l'esplanade des châteaux et c'est suivi d'une table d'hôtes. Donc ce sera à 21h30 du 30 juillet au 9 août. Donc pour réserver, il faut appeler l'office de tourisme ou la compagnie de la Tour Brune-Haut. Et voilà, ça réunit une centaine de bénévoles. C'est vraiment un gros spectacle qui attire beaucoup de monde depuis 1997. Donc voilà, et c'est 34€ pour le spectacle et 48€ avec la formule repas. Et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Donc ça, c'est le premier gros événement de Bruniquel. Ensuite, à la fin du mois d'août, il y aura les Nuits Frappées de Bruniquel. C'est un festival de batucada. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des percussions qui nous viennent du Brésil. Et donc, il y a plusieurs groupes qui vont venir jouer du batucada. Le principe, c'est qu'on part d'en bas du village et il y a une déambulation à l'intérieur des rues et des ruelles du village et on finit au château. Ça, c'est gratuit et c'est le 29 août à 18h. Et donc ensuite, plus dans le courant de l'été, il va y avoir une balade gourmande à Nègrepelisse. Alors ça, c'est un petit événement qui est organisé par la ville avec l'association SCN Rando. Ce sera le 26 juillet. Donc il y a plusieurs événements tout au long de l'été, mais le prochain, c'est le 26 juillet. Et c'est un petit parcours de 7 km qui se fera et qui se terminera jusqu'à la Maison des Abeilles pour une dégustation, d'où le nom gourmande, pour une dégustation de miel. Donc ça, encore une fois, c'est gratuit. C'est au départ à 8h45 à Nègrepelisse. Et si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez appeler le 05 63 64 26 21. Donc ça, c'était pour la balade gourmande. Et ensuite, des visites guidées qui vont commencer début août. Ça va être tous les jours de 15h à 19h. Et ça se passe au château-école de Bioule. Alors, le château-école de Bioule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toute l'année une école primaire. Donc, il y a des enfants qui ont la chance de venir apprendre dans un lieu qui est classé au monument historique. Donc, il y a des salles avec des fresques de l'époque médiévale encore. Donc, c'est vraiment un petit poudlard, on va dire. Donc, les visites guidées, on peut appeler, c'est mieux de réserver. Donc, on peut appeler la mairie de Bioule. Le contact, numéro de téléphone, c'est le 05 63 30 95 62. Voilà. Donc, ce sera tous les jours entre 15h et 19h. Et c'est gratuit pour les moins de 7 ans. Donc voilà, et pour les adultes, c'est 3€.
Et on peut avoir l'ensemble de vos propositions, non seulement sur le Quercy-Vert Aveyron, mais sur tout le pays Midi-Quercy, sur les réseaux sociaux, notamment en tapotant dans le moteur de recherche Gorge Aveyron Tourisme. Hugo, puisque vous êtes sur place, là, en Quercy-Vert Aveyron, peut-être une idée rando, balade, pour quand il ne fait pas trop chaud?
Oui, tout à fait. On a des circuits PR, promenade randonnée, donc une qui est très populaire, on va dire, c'est le circuit du Cabéou. C'est un petit 3 heures, c'est une randonnée qui est assez ombragée sur une grande partie de l'itinéraire. Donc c'est 10 km avec 250 mètres de dénivelé environ, au départ devant l'office de tourisme de Bruniquel, et on revient à la fin à l'office de tourisme. Donc ça fait une belle boucle et on a un super point de vue des châteaux. Donc ça peut être bien. Et puis ensuite, l'espace gravel qui a été développé avec la Fédération de cyclisme, il y a Olivier Fournalès du service Sentier qui a développé plusieurs itinéraires. Donc on a 7 itinéraires qui parcourent la commune, donc autour du lac de Guire. Donc en passant par Vessac, ça passe à Nègrepelisse, à Montricou, à Bruniquel. Donc il y a différents itinéraires qu'on peut parcourir, de différentes difficultés aussi. Et ici à l'office de tourisme, on a les plans pour 2,50€, pour les intéressés de gravel. Pour ceux qui connaissent pas le gravel, c'est un mélange entre le vélo de route et le VTT, ce qui nous permet d'aller sur des sentiers un peu plus sortir des sentiers battus, on va dire, et de la route asphaltée. Et aller dans des sentiers un peu de gravier. Si vous voulez suivre, du coup, pour venir supporter l'espace gravel et aussi avoir les dernières actualités, les derniers circuits de gravel qui ont été développés sur la communauté de communes. Je vous invite à suivre l'Instagram, donc c'est Kercy Gravel, tout simplement.
Sinon, pour en savoir plus, pousser les portes des offices de tourisme Montclar de Kercy, tiens, où il y a une base de loisirs, où on peut aller faire trempette ou directement chez vous. À Bruniquel, Hugo Lopez qui nous proposait pour le réseau d'offices du tourisme du Kercy vers Aveyron cette chronique. Les offices prennent le micro. Merci beaucoup, Hugo.
Avec plaisir, merci.
Le mag du pays midi Kercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h. Et en podcast sur le site cfmradio.fr.